Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Le débat a déjà commencé, 11h midi avec vous pour commenter l'actualité 0826 300 300 aujourd'hui pour débattre et commenter l'actualité. Eduardo Rian-Sipel, bonjour.
Bonjour
ancien
Valérie.
Député PS, maître de conférence à Sciences Po, cofondateur de la marque Brumaire. Ce sont des caleçons made in France. Vous êtes bien sûr qu'ils sont made in France. Hein,
ils sont totalement made in France.
Fatima El Ouazi, présidente et cofondatrice de Politique Elle.
Bonjour.
Arnaud Stéphane, grand reporter et directeur de la communication du magazine L'Incorrect. Correct, bonjour.
Bonjour.
Et Samuel Pruvot, rédacteur en chef de Famille Chrétienne.
Bonjour.
Alors, on va revenir, quand même, sur la polémique autour des propos d'Éric Zemmour et sur cet appel d'Audrey Pulvar ce matin à ne plus inviter Éric Zemmour sur les plateaux. Donc, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce qu'au nom de la liberté d'expression, on doit laisser Éric Zemmour s'exprimer ou est-ce qu'il faut l'interdire de plateau? Moi, je trouve ça un peu... beaucoup excessif, mais bon, même si ses propos sont condamnables, voilà. La PMA doit-elle être élargie aux femmes seules et aux couples de femmes? Et puis, on va parler délocalisation des centres d'appel téléphoniques. Est-ce que vous en avez assez de tomber sur des gens qui ne comprennent pas? Et puis, surtout, de préserver des emplois en France. Ça représente quand même un certain nombre d'emplois qui partent à l'étranger. On commence avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Tiens, je vais commencer. C'est pas bien hein, de commencer par soi, mais j'ai oublié de le faire hier. C'est ce que les qui a été giflé par un chauffeur de bus, on en a déjà parlé ici, et sa mère a décidé de porter plainte contre le chauffeur de bus. Et moi, je trouve que c'est invraisemblable. Alors, on ne doit pas gifler un enfant, certes, mais voilà, ce gamin a traversé devant le bus, a obligé le conducteur à piler, il l'a traité de connard, il lui dit ta gueule. Moi, je suis la mère, je lui en recolle une. Enfin, je lui en recolle pas une parce que je ne frappe pas mes enfants, mais je porte pas plainte contre le chauffeur de bus.
Moi, je pense qu'il y a une prise de conscience.
Fatima Loisy.
Même des parents, enfin, je veux dire, au bout d'un moment, l'incident est clos. L'incident est clos. Et il n'y a pas à remettre de l'huile sur le feu. Il va déjà être. Enfin, c'est un peu la double peine parce que déjà, il va être sanctionné par sa société et il sera peut-être encore sanctionné par la justice potentiellement parce que de toute façon, il a levé la main sur un enfant. Donc, c'est bien sûr. C'est illégal, hein, c'est un délit. Et il sera condamné, je pense. Hein, je pense que ça ne fait aucun doute. Ouais. Quand bien même il a été victime d'insultes, je ne sais même pas si c'est une circonstance atténuante sur le coup. Enfin, vraiment, je n'en ai aucune idée d'un point de vue purement légal, mais c'est quand même dommage. Et moi, je n'aurais pas porté plainte, je pense.
Non. Vous aurez un commentaire?
Moi, ça me fait flipper une société hyper judiciarisée.
C'est un peu l'ensemble, c'est un peu le thème général.
Alors, ce matin, nous sommes dans un magnifique studio, Valérie. Imaginez que j'ai le rhume, je tousse, je fais atchoum, et puis après, demain, vous êtes malade. Vous allez dire, mais c'est pas possible, c'est encore Samuel Pruvot qui m'a filé son rhume, et donc je vais voir mon avocat en disant, je suis sûr que c'est ce type qui m'a... Non, mais on peut aller très loin comme ça. Hein.
Ouais. Et donc, vous pensez quoi, vous, de cette mère? Elle doit porter plainte ou pas?
Ah ben non, parce que sinon c'est sans fin en fait. Ouais. Sinon on va porter plainte demain contre les nuages parce qu'il nous pleut sur la tête. Hein.
Eduardo ?
Je crois qu'il faut être clair sur un point. Personne n'a le droit
de
toucher
un enfant,
y compris après des propos très durs de l'enfant vis-à-vis de ce chauffeur de bus et le risque que cet enfant a fait encourir. Je pense que quand on est un adulte, il faut pouvoir se maîtriser et qui plus est avec les enfants des autres. Ensuite, la décision de la mère lui appartient. Je ne veux pas la commenter. Est-ce que j'aurais déposé plainte? Mais moi, j'aurais été extrêmement énervé, vraiment très en colère, si quelqu'un touchait mon enfant. Je crois qu'on n'a pas le droit de laisser passer de telles choses et que ça demande au moins une très grosse explication avec les patrons du chauffeur de bus. Mais c'est vrai aussi que nous sommes dans une société, Valérie, je pense que c'est le point central pour moi, où la question de l'autorité se dissipe, disparaît, la place du père disparaît, d'un point de vue psychanalytique. Et je crois que ça explique beaucoup, un petit peu aujourd'hui, les troubles de cette société horizontale, dans son ensemble, où il n'y a plus de verticalité, beaucoup plus de repères, et ça crée énormément à la fois de troubles sociaux, de troubles familiaux et de troubles individuels. Et les psychanalystes le voient très souvent sur hors divan.
Mmh. Arnaud Stéphane.
Moi, ça m'a fait évidemment penser immédiatement à François Bayrou et à sa gifle... Village de poche. Non, je trouve que c'est encore une fois une instrumentalisation Parce qu'il faut faire du buzz, peut-être que la maire a été approchée aussi par des personnes pour lancer une polémique. Ouais. Je pense que c'est inutile. Je crois que le chauffeur de bus, il devait être dans un état de nerfs absolument invraisemblable. Il n'avait pas à le faire, on est d'accord. Ouais. Est-ce que là, on doit passer au plan judiciaire? Je trouve qu'encore une fois, c'est évidemment complètement disproportionné. Ouais.
Fatima, votre coup de cœur, votre coup de gueule,
Alors moi, mon coup de gueule aujourd'hui, c'est sur l'enquête Foodwatch qui est sortie aujourd'hui, cette nuit, sur le fait que 12 aliments du quotidien Français ont été épinglés parce qu'ils contenaient des additifs d'origine animale. Et le problème qui émerge ici, c'est par exemple le panier Yoplait à 0% qui contient de la gélatine de bœuf, alors qu'il y a marqué juste gélatine sur l'emballage. Comté bio, donc ça veut bien dire que le bio, c'est pas forcément un gage de qualité, je tiens à répéter, parce que certaines personnes pensent qu'en achetant un produit bio, c'est forcément bon, qu'il n'y a rien qui est ajouté en plus, mais c'est pas vrai. Donc du bio, on retrouve du veau, donc un additif d'origine animale. Donc, on a une tromperie ici à délibérer du consommateur. Pour information, il y a une directive européenne, la directive INCO, donc l'information pour le consommateur, où l'étiquetage doit être loyal envers le consommateur. Sauf qu'on se rend bien compte dans le quotidien, dans ce qu'on achète et dans ce qu'on consomme, que cet étiquetage n'est pas du tout loyal. Au contraire, les industriels continuent de trouver des moyens d'outrepasser la loi en étiquetant, certes, bien qu'il y a de la gélatine dans les produits, cependant, ils n'étiquettent pas le fait que ce soit de la gélatine d'origine animale, d'origine porcine, d'origine bovine. Cependant, il y a une loi qui a été votée il n'y a pas très longtemps, qui c'est la loi sur les états généraux de l'alimentation, où il y a eu des tentatives des députés qui ont voulu du coup affiner cet étiquetage en étant beaucoup plus précis. Cependant, se sont fait retoquer systématiquement, soit par le rapporteur, soit par le gouvernement, du fait que ça engendre des coûts supplémentaires pour les industriels. Donc c'est aussi cette fameuse... les industriels ont envie, soi-disant, de mieux informer les consommateurs, mais ils ne mettent pas les moyens financiers derrière. Et surtout, on s'en fiche en fait de la santé et du bien-être des consommateurs.
Mais ça m'énerve. En quoi c'est grave qu'il y ait de la gélatine dans les aliments ?
C'est pas grave. Ce qui est grave, c'est que l'étiquetage n'est pas suffisamment clair. Par exemple, sur plein de choses.
Est-ce que vous faites la distinction dans les choses sur le fait que ce soit de l'origine porcine et que ça pose problème ?
Ah, bien sûr. Alors moi, je pensais même pas à ça. Je pensais par exemple aux gens qui ne mangent pas de viande ou pas de produits animaux. Qui achètent un yaourt Yoplait et quand ils regardent pas forcément l'étiquetage, parfois il y a des produits où on peut pas retourner le contenant, comme le tiramisu, on peut pas le retourner pour regarder l'étiquetage sous peine de briser le produit. Donc c'est quand même assez ballot. Mais moi je pensais
de surveillance. Le plus dégoûtant, pour rester correct, c'est l'orangina rouge qui contient des extraits d'insectes, des colorants issus de cochenilles pour avoir cette couleur rouge. Donc voilà, un commentaire les uns et les autres sur
La malbouffe est un problème majeur dans la société française, dans nos sociétés contemporaines, industrialisées ou surindustrialisées. Ça provoque des problèmes de santé majeurs. Et je crois aujourd'hui que nous sommes dans l'obligation de faire cette transition aussi de la santé. C'est la transition sanitaire aussi qui est importante. La transition alimentaire qui est fondamentale. C'est un grand enjeu de société et de progrès réel pour les gens. Si les gens aujourd'hui se détachent en partie du progrès de manière totalement irrationnelle, c'est aussi lié à ces expériences où ils voient très bien que ce qu'on leur vend détériore leur santé et leur cadre de vie.
Moi, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas de secrétariat d'État à la consommation. C'est un secrétariat qui a complètement disparu. Les problèmes que rencontrent les consommateurs sont de plus en plus nombreux. Et c'est quelque chose qu'on ignore totalement. Je pense aux appels téléphoniques incessants chez les personnes âgées pour du démarchage, des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est visiblement un chantier qui est complètement abandonné par le gouvernement.
Vous avez raison. Et d'ailleurs, c'est transversal. C'est la consommation, c'est l'écologie, c'est aussi l'industrie. Et par conséquent, c'était en grande partie le rôle de Nicolas Hulot, mais il s'est senti impuissant, et puis il est parti du gouvernement.
Alors Samuel Prouveau.
Oui, et c'est pas juste une affaire de consommation, c'est une affaire de santé.
Et de modèle de société.
Et de modèle de société. Et parmi ceux qui abandonnent, il y a aussi la médecine. Il se trouve que moi, je suis atteint d'une maladie auto-immune et qu'on ne connaît pas l'origine de cette maladie, mais dans les suppositions, les hypothèses, reviennent à chaque fois la question justement de la malbouffe, des pesticides. Ouais. Et à l'hôpital, il y a des gens hyper compétents, humanistes, charmants, mais ils me disent en fait, vous êtes trop peu nombreux pour qu'on investisse pour faire des recherches. Donc pour l'instant, ce qu'on va faire, on va éviter que l'incendie se propage. En revanche, cher monsieur Prouveau, on ne pourra pas éteindre l'incendie, peut-être dans plusieurs générations. Et donc là, pour le coup, ce n'est pas du tout anodin qu'il y ait des cochenilles qui donnent des couleurs rouges à telle ou telle boisson.
Oui, peut-être un mot, parce qu'Eduardo veut réagir également, Arnaud Stéphane.
Oui, non, il y a aussi un vrai problème, et quand vous dites qu'il n'y a plus
de secrétariat d'État à la consommation,
c'est aussi parce qu'on est rentré dans une expression politique où on aime bien le big business. Et l'alimentation, c'est du big business, c'est de l'industrie. Et que si on fait ce genre de démarche, c'est parce que c'est plus facile à produire, que ça permet d'utiliser des chaînes de production et de peut-être pas nettoyer les appareils, ou alors d'utiliser un certain nombre d'éléments qui sont moins chers sur le marché et de faire de la marge. Donc je pense en effet qu'il y a aussi cette idée derrière, et qu'en ce moment, on aime bien les grosses boîtes en France.
Oui, mais je vois, ce matin, on a traité de l'hygiène dans les restaurants dans l'émission précédente, on a essayé de contacter la DGCCRF, qui ne s'exprime pas. Moi, je suis une vieille, hein, ça fait longtemps que j'anime des émissions, de conso en particulier. Il y avait un monsieur formidable qui venait sur les plateaux de télévision parler pour la DGCCRF et qui racontait ce qui se passait, comment la DGCCRF ne s'exprime pas, ne raconte pas, sans dévoiler de secrets, mais enfin, je trouve
ça... Non, qui existe toujours. C'est 60 pas, millions
oui,
de consommateurs,
oui,
ça,
60
c'est,
millions,
c'est
ça dépend.
C'est pas une association. Hein,
c'est, non, c'est... si c'est une association, mais qui dépend effectivement.
Oui, oui.
Je sais
si, si,
pas.
Si, si, oui, si,
oui.
Si,
mais c'est pas la DGCCRF. Là, on demandait un avis gouvernemental, enfin, d'une
de l'État,
de
oui.
L'État, et on nous dit on répond pas, on parle pas sur les plateaux de télé. Donc c'est Eduardo sur.
Nous avons entendu il y a quelques jours le président de la République, évidemment. Emmanuel Macron, parler d'un certain nombre de réformes dans le domaine de la santé, des hôpitaux, etc. On n'a pas vraiment entendu le terme de politique de santé. Il se trouve qu'il y a quelques mois, en début d'année, j'ai publié une tribune dans le journal Marianne, pour ne pas le citer, dans laquelle je promouvais l'idée de la grande santé. La grande santé, précisément, je pense que c'est une idée très moderne qu'on doit aujourd'hui viser, qui doit lier la santé biologique, classique, l'alimentation, l'environnement, et aussi le bien-être psychologique. Ouais. Il faut que tous ces sujets soient pris d'un seul trait, et que vous avez raison, la question de la consommation, la question alimentaire, ce que vous dites, Fatima, depuis tout à l'heure dans votre coup de gueule, est fondamentale aujourd'hui pour l'avenir de l'humanité, de nos sociétés, si on veut du bien-être. Sans quoi, on aura la malbouffe, on aura des problèmes majeurs de santé publique, et donc de dépenses publiques liées à tout ça. La prévention, elle commence en visant la grande santé, cette notion de grande santé qui doit être une idée très moderne à développer.
Mais là,
en termes de politique publique aussi.
Mais là, il ne va rien se passer. Foodwatch dénonce
ça. Non, il va rien se passer parce que la fenêtre législative pour changer la loi et surtransposer la directive européenne qui dit juste les additifs doivent être mentionnés mais pas leur origine, etc., substantif, elle ne sera pas, enfin, la loi, elle est votée, elle est adoptée, c'est un dossier clos pour le quinquennat.
Il y a
je
des
pense
inégalités
va,
sociales là-dessus aussi, vous voyez très bien comment les gens qui ont les moyens échappent en consommant bien,
mais moi,
bio,
je dis,
local,
ne manger,
etc.
Ne manger vraiment, je pas de consomme pas de produits transformés, moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté, acheter des fruits et des légumes, cuisiner, prenez le temps, et vous allez voir, vous allez juste peut-être maigrir tellement, vous allez voir, votre corps, il va se réhabituer à bien manger.
Mais moi qui suis un élu des quartiers populaires, je vois très bien que les gens qui n'ont pas les moyens, ils sont obligés de consommer au surgelé, des choses de mauvaise qualité. Donc là, ce sont des inégalités sociales insupportables et il faut qu'on arrive à trouver des réponses.
L'obésité est endémique dans les quartiers populaires.
Absolument. Allez, on se retrouve dans un instant. On a des coups de gueule qui font beaucoup réagir ce matin. Donc restez avec nous sur Sud Radio. On continue. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Le débat continue sur Sud Radio. Restez avec nous jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Bercoff. Alors, on continue le tour de table des coups de gueule ou des coups de cœur. Arnaud Stéphan, votre coup de cœur, coup de gueule ?
Alors, coup de gueule, ouais. Ça concerne l'événement qui a eu lieu au Républicain il y a 24 heures avec la mise de côté de la candidature Tegner pour les jeunes des Républicains.
Alors, c'est qui ? Racontez-nous.
Alors, Éric Tegner...
J'ai adoré ce sujet-là, parce que j'ai une grande histoire avec les jeunes Républicains.
Ah oui, c'est vrai.
Super.
Éric Tegner est un jeune qui s'occupait des jeunes avec... comment s'appelle-t-elle ? Avec... Il avait une fonction chez les jeunes républicains. Il a décidé de se présenter, mais sous une étiquette Union des droites, refusant de ne pas pouvoir discuter avec telle ou telle formation. Et Laurent Wauquiez et la direction des Républicains ont décidé de changer les règles de candidature à cette élection. Et il se trouve qu'il est, par le fait, éliminé avant même d'avoir participé, puisque les conditions sont drastiques. Et surtout, on les a changés au dernier moment. Alors,
mais ça veut dire donc quoi
c'est, il pourra c'est, pas se présenter, ouais. Vraisemblablement, il ne pourra pas se présenter parce
mais
qu'on a relevé le seuil.
On
a relevé le seuil.
Il y
a un certain nombre de
secrétaires départementaux.
Voilà, référents départementaux. Et c'est une grande spécialité dans les partis politiques. Vous savez, on pratique ce qu'on appelle, ce qu'on appelait dans l'URSS, la démocratie organique. C'est-à-dire que seuls ceux qui sont d'accord ont le droit de voter. Donc on change les règles et on fait un système pour que les gens ne puissent pas se présenter et que ça soit le candidat officiel, celui qui a été décidé par la direction, qui soit élu dans les semaines qui suivent. Bon, c'est dans plein de parties.
Alors, non, mais ceux qui se présentent, alors moi je vais parler d'expérience.
Ouais. Allez-y.
Non, voilà, et je suis très embêté. On peut ne pas être d'accord avec Éric Tegner, etc., mais c'est de la vieille politique. Et on voit bien que la manière de gérer les partis politiques, la manière dont aujourd'hui les Républicains se comportent là-dessus, mais sur d'autres sujets, ne permet pas l'éclosion de vrais débats au sein des partis politiques. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les partis politiques traditionnels sont dans une forme absolument lamentable. C'est qu'on verrouille tout et on empêche des gens de se présenter. Et vraisemblablement, il n'aurait pas été élu.
Alors pourquoi on a peur de lui, c'est quoi?
On n'a pas peur de lui. Enfin, alors je peux parler. Oui, alors, moi, j'étais militante chez les Jeunes Républicains dans un passé pas très lointain, il y a quelques années. Donc j'ai eu ma carte. Moi, j'ai adhéré à l'UMP à 17 ans. Ouais. Voilà, j'ai eu un petit passé dans ce parti. Et en fait, l'élection du président ou de la présidente des Jeunes Républicains n'a jamais été démocratique. C'est vraiment un simulacre de démocratie. J'en parle d'expérience parce qu'en 2015, il y a eu l'élection, entre guillemets, de Marine Bronnier, qui est maintenant députée de LR. Fameuse élection où on était la seule candidate parce que justement, ils ont fait des statuts. Mais moi, quand on a halluciné avec des amis, quand on a vu les statuts, des statuts avec 50 parrainages de référents départementaux alors qu'il y en a 50 seulement en France. Enfin, je veux dire, c'était des seuils impossibles pour qu'il y ait une liste ne serait-ce que dissidente. Ouais. Mais juste une deuxième liste. Et là, on a la chance apparemment d'avoir deux candidatures, un soutenu chapeauté par Sarkozy, un soutenu par Wauquiez. Donc on verra les choses. Mais en fait, c'est juste que voilà, chez LR, il n'y a jamais eu de démocratie interne. Ouais. C'est tout le temps un simulacre de
choses. Les partis politiques.
Je pense que par exemple, au MJS, c'est un peu différent parce que c'est un mouvement indépendant.
Vous pensez
socialiste. Non, mais je pense qu'il y a quand même une élection parce que c'est quelque chose qui est indépendant.
L'école du vice, je vous rappelle, selon François
Mitterrand. Évidemment.
Un peu de vice dans la vie ne fait pas de mal.
Mais ce que je veux dire, c'est que ça n'a jamais été démocratique et que moi, ça ne m'étonne même pas que ça se passe comme ça, en fait. Et après, Éric Tegner aussi est dans un rapport de force dans ce qu'il appelle l'union des droites, où il veut vraiment, du coup, travailler un peu en sous-main pour tout ce qui est Marion Maréchal Le Pen, qui dessine l'idéologie derrière, c'est qui dessine un peu pour 2022 la réunion des droites, ce que avait théorisé Patrick Buisson, dans le sens où, c'est un peu l'idéologie. Non, mais je suis très, très sérieuse, hein, c'est vraiment ce qui se passe, c'est pas un déni de démocratie, c'est juste que l'élection n'a jamais été démocratique, il savait qu'il n'aurait pas les parrainages, mais il s'est quand même présenté.
Oui, alors. Samuel,
si on autorise les gens à se présenter et qu'on change les règles, c'est comme jouer au rugby contre les Anglais. Vous savez, on change les règles et vous retrouvez avec
on a 16
contre 15,
de...
n'importe quoi avec l'arbitre et tout ça.
Non. Mais Samuel, on a entendu votre coup de gueule, donc et ça changera pas. Donc là, les règles ont été fixées comme ça, donc. En tout cas, vous n'êtes pas content de cette manière de procéder. Samuel Prouveau, tout autre chose.
Ah, tout autre chose, c'est un coup de cœur. Je pense que ça ne va pas susciter beaucoup de débats. Ce matin, j'ai vu sur une chaîne d'info continue quelque chose de dingue. Enfin, je n'avais jamais vu ça. C'était une momie qui était transportée. C'était au musée de Besançon. Cette momie, elle a 3000 ans. Et puis, elle était en fait réintégrée. Et alors, ce qui était très beau, c'était que on expliquait en fait quelle était la vie de cette momie, parce qu'en fait, tout est écrit à l'intérieur. Bon, bien sûr, en hiéroglyphes, pour ceux qui savent les lire. Et en deux mots, c'est la vie de quelqu'un qui s'appelait Séramon, qui était artiste, il était dessinateur, et qui est mort à 35 ans. Et on connaît beaucoup de détails sur sa vie, non seulement par tout ce qui est inscrit sur son sarcophage, mais aussi parce qu'on a passé, imaginez ça, chers auditeurs, on a passé la momie dans un super scanner moderne. Donc on sait exactement le nombre de caries qu'avait ce Séramon. On savait qu'il avait des problèmes de genoux précoces. Et puis la dernière chose qui m'a vraiment ému, vous allez dire vraiment le pauvre Samuel, il est fatigué, il s'émeut pour rien, c'est que tous ceux qui transportaient avec beaucoup d'attention forcément ce sarcophage, etc., parce qu'il y a plusieurs, c'est comme des poupées russes, ils disaient on fait en fait très attention, non seulement parce que c'est ancien, ça a 3000 ans, mais surtout en fait parce que c'est pas un objet, c'est quelqu'un. Ouais. Et je me suis dit, enfin un peu d'humanité. Voilà, moi je suis un peu traumatisé par le transhumanisme, etc. De dire que finalement.
C'est un vrai sujet.
Ouais,
c'est le
pour
sujet.
Moi, à l'école, je me souviens de pas grand chose, mais qu'on disait à la préhistoire, finalement, les hommes arrivent quand ils commencent à en enterrer d'autres, parce que c'est un des éléments qui fait l'humanité.
C'est ce qui marque l'humanité.
Ouais, voilà. Et je me dis, super, moi je commence bien ma journée, parce que pour moi, c'était une trace d'humanité. Voilà.
Vous êtes heureux qu'ils aient pu remettre le bas avec le K. Voilà. Exactement. Bah, ouais. Pour les Égyptiens, c'était important un petit peu.
Oui, totalement. Oui. Arnaud, pardon. Eduardo, pardon.
Non, je trouve ça, cette histoire tellurique. Voilà, ouais. C'est les forces, oui, c'est ça, ouais. Les forces telluriques du temps, et je crois que c'est très important.
Allez-y, parce que je viens de regarder sur Internet, les images sont impressionnantes. Donc, allez visiter Besançon pour voir cette momie incroyable. Allez, Eduardo, vous, votre coup de gueule.
J'ai un coup de gueule grâce à la note de la Fondation Jean Jaurès qui vient d'être publiée aujourd'hui, qui analyse donc un possible exil fiscal de l'intérieur. C'est une note redoutable.
Alors racontez-nous ce que c'est que l'exil fiscal de l'intérieur.
Ils analysent une possible sécession des riches qui est facilitée par la politique fiscale d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mesures qui profitent aux 400 000 ménages les plus riches de France est la plus forte baisse d'impôts jamais accordée dans ce pays depuis que l'impôt sur le revenu existe. C'est-à-dire qu'on privilégie les 1% des plus riches de France. Et je crois que cette note nous alerte sur l'américanisation possible de la société française en accordant, par exemple, en allégeant à mort la fiscalité sur le capital au détriment de la fiscalité sur le travail.
Ça, c'est pas nouveau. Ça s'est empiré. Oui.
Nous avions, quand j'étais député dans la majorité avec le président Hollande, nous avions rétabli l'égalité de la
finance. Votre ennemi.
Et nous avions d'ailleurs, à ce titre,
l'adversaire.
Et la mauvaise finance, celle qui produit de la spéculation. Voilà. Alors, on n'a pas gagné tous les combats. D'ailleurs, nous avons été réduits en miettes, comme vous l'avez remarqué.
Surtout,
mais nous avions fait des choses qui ont été défaites par ce pouvoir. Et je rappelle que l'alignement de la fiscalité du capital sur celle du travail avait été une grande conquête de progrès, me semble-t-il, pour la société française. Je vous recommande la lecture terrifiante de cette note de la Jean Jaurès, de la Fondation Jean Jaurès, sur cet exil fiscal de l'intérieur qui est redoutable. Et je vous dis, cela prédit une société à l'américaine où les plus riches seront plus riches et les plus pauvres encore plus pauvres. Moi qui suis un enfant, qui suis né au Brésil, je ne vous souhaite pas, et je ne nous souhaite pas en France, une société aussi violente.
Vous n'avez pas un prénom très français, d'ailleurs, Eduardo.
Je ne suis pas parfait.
On va y revenir, justement. On va parler de cette polémique autour d'Éric Zemmour et de cet appel d'Audrey Pulvar ce matin, la journaliste Audrey Pulvar, enfin journaliste et aujourd'hui présidente de la Fondation Nicolas Hulot, qui demande à ce qu'on n'invite plus Éric Zemmour sur les plateaux de télévision et à la radio. Qu'en pensez-vous? 0826-300-300, à tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Nous sommes ensemble sur Sud Radio jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Bercoff. Je suis avec Eduardo Rian-Sipel, ancien député PS, maître de conférence à Sciences Po et cofondateur de la marque Brumaire. Ce sont des caleçons made in France. Fatima El-Wazdi, comme quoi la politique mène à tout. Hein. Fatima El-Wazdi, présidente et cofondatrice de Politique Elle. Arnaud Stéphane, grand reporter, directeur de la communication du magazine L'Incorrect. Et Samuel Pruvot, rédacteur en chef de Famille Chrétienne. Alors je me suis interrogée de savoir s'il fallait. Vous savez, c'est un peu la mise en abîme. Est-ce qu'il fallait reparler encore d'Éric Zemmour? On en a beaucoup parlé, il est omniprésent sur les réseaux sociaux. Faut-il l'inviter? C'est la question que pose, Audrey Pulvar recommande de ne plus l'inviter, de ne plus lui donner la parole ce matin. C'est ce qu'elle a tweeté. Ses propos donc très violents contre Tatoussi ont beaucoup fait réagir à Éric Zemmour, donc on peut ne pas être d'accord avec lui. Mais il ne tombe pour l'instant pas sous le coup de la loi, donc qu'est-ce que vous en pensez les uns et les autres? Vous avez été nombreux à réagir au standard de Sud Radio. On a Claude en ligne avant de vous donner la parole. Claude, qu'est-ce que vous en pensez?
Bonjour Valérie, bonjour à tous.
Bonjour.
Ben écoutez, ce que j'en pense, c'est que la liberté d'expression, on ne doit pas toucher à la liberté d'expression. Voilà, c'est un bloc. C'est ce qui fait, c'est un des piliers de notre démocratie. Si chacun a le droit d'exprimer comme il veut. En revanche, si les propos tenus par certains dépassent des limites acceptables, à ce moment-là, l'arsenal juridique est là pour effectivement remettre les choses en place. Mais sinon, cette liberté d'expression est vraiment inaliénable. On ne doit pas la toucher. Manuel Valls nous a fait le coup avec Dieudonné. Non, je dis non.
On peut pas dire d'accord. La justice avait tranché, le Conseil d'État avait tranché
à un plus haut niveau. On peut
être d'accord ou pas avec Dieudonné, c'est pas le propos. On peut être d'accord.
On est d'accord, mais le Conseil d'État a tranché. La justice a tranché en l'occurrence, justement.
Oui, mais non, on ne doit pas toucher à la liberté d'expression.
La justice a tranché dans le sens contraire, monsieur. Ce n'est pas un problème d'expression, c'est un problème de diffamation.
C'est le Conseil d'État. Hein. Ouais.
On ne parle pas d'une opinion personnelle, c'est le Conseil d'État.
Il a été condamné pour diffamation, incitation à la haine. Donc c'est
mais vous pouvez penser le contraire, c'est votre liberté.
Non, non, mais c'est parfait. Mais simplement, au début, Manuel Valls remettait en cause la liberté d'expression. Et ça, je dis non. Je dis, on ne doit pas remettre en cause la liberté d'expression. Chacun a le droit de, justement.
Conseil d'État, tranché autrement, je suis désolé. À partir du droit, pas à partir de l'opinion.
Je ne peux, j'ai le droit de ne pas être d'accord avec
le Conseil d'État, vous avez raison.
Voilà, ouais, non, mais c'est votre opinion, Claude, c'est la liberté d'expression.
La liberté d'expression est là, on ne doit pas la toucher, point. Après, c'est un autre débat.
Voilà. Je vais vous lire le tweet exact d'Audrey Pulvar. Combien de temps les médias français continueront-ils à donner libre antenne au racisme de Zemmour au motif de faire le buzz? Donc le racisme de Zemmour, le racisme c'est très fort, l'incitation à la haine raciste c'est quelque chose de très fort. Le producteur de Thierry Ardisson, Stéphane Simon, hier sur Sud Radio nous a bien dit que la séquence incriminé avait été coupé justement pour des raisons juridiques. Donc après ce que dit Éric Zemmour, ne tombe pas sous le coup de la loi, en tout cas ce qui est passé à l'antenne. Donc,
Je pense qu'ils avaient surtout peur peut-être d'une sanction du CSA.
Oui, non, mais bien
aussi,
sûr.
Donc ils ont coupé la chose
bien
au
sûr.
Montage.
Non, mais là, aujourd'hui, on peut ne pas être d'accord avec ce que dit Éric Zemmour.
La question philosophique, c'est dans quelle société on veut vivre. Est-ce qu'on veut vivre dans une société aseptisée où il y a des gens qui sont autour d'une table et tout le monde est d'accord et tout le monde est à la même opinion? C'est la question qu'aujourd'hui
on appelle ça débat.
On appelle ça un débat. Alors moi, je suis contente parce que voilà, j'ai des personnes qui n'ont pas du tout les mêmes opinions, peut-être sur la PMA notamment avec Samuel. Ça va être un débat intéressant. Et moi, j'aime bien la confrontation d'idées. C'est de la confrontation d'idées qu'émerge un véritable débat démocratique et une véritable vérité. Parce que la vérité, elle n'émerge pas autour d'une table où tout le monde pense pareil, je suis désolée. C'est la façon dont je vois juste le débat d'opinion, le débat parlementaire, le débat politique. Et je suis pour qu'on invite Éric Zemmour parce qu'il a aussi le droit de s'exprimer. Et je suis pour que les personnes qui ne soient pas d'accord avec lui répondent et débattent et l'affrontent. C'est ça la France, je suis désolée.
Oui. Arnaud Stéphane.
Moi, je voudrais revenir sur un terme qu'on utilise beaucoup depuis tout à l'heure, c'est violence. Enfin, je veux dire, on va se calmer quand même avec le terme violence. C'est le relativisme du mot violence.
C'est-à-dire qu'on a dit violence, je sais pas.
Tout à l'heure, c'était violent. Bah non, c'était pas violent. C'était dur, c'était peut-être très engagé, mais c'est pas violent. Parce que violence, c'est ce qui s'est passé avec le chauffeur de bus. Ça, c'est une violence.
Mais quand même, quelqu'un qui dit à quelqu'un, votre prénom est une insulte à la France. Je trouve que c'est violent. Et je me demande si c'est pas passible de la loi.
Mais ça n'a pas été diffusé, Eduardo. Eduardo Riancipel, ça n'a pas été diffusé.
Ça, vous avez raison. Donc, les producteurs et les responsables de l'émission ont compris qu'il y avait peut-être un petit problème du point de vue juridique.
Bien sûr.
Et donc, ils ont été intelligents.
Bien sûr.
Et prudents.
Oui.
Vous avez les termes exacts ont été
bien sûr. Absatoussi a mis la vidéo sur Instagram. Et il dit, votre prénom est une insulte à la France. Le prénom d'Absat aussi,
Donc, et avant, il y a cet échange qui a été diffusé
sur Corinne.
En disant on ne devrait pas, en gros, il est revenu sur ce qu'il avait dit.
On a vu la séquence, mais la séquence manquante.
La séquence manquante, c'est ça. Votre prénom est une insulte à la France. Bon. Donc,
c'est une bêtise. Oui.
Mais c'est complètement. C'est complètement.
Mais est-ce que c'est violent? Faut arrêter avec l'utilisation de ces termes.
Je suis fille d'immigrés marocains. Bon, je m'appelle Fatima, j'ai la chance que ce soit dans le calendrier des saints. Donc, super génial. Franchement, Éric Zemmour, il aurait rien pu me dire. Voilà, exactement.
C'est vrai.
Corinne, ça vous irait pas, vous?
Mais en revanche, si on me dit, votre prénom est une honte à la France, je suis désolée, je n'ai pas choisi mon prénom, je porte le prénom de ma grand-mère, donc j'en suis super honorée et fière. Et puis, c'est totalement débile. Enfin, voilà, ça fait pas de moi une sous-française et une sous-citoyenne.
Parce que vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes d'accord avec le fait que le prénom Absatou soit une insulte à la France?
Non, c'est pas une insulte, mais je pense que... Le problème d'Éric Zemmour, c'est qu'il est allé là où il ne faut pas aller pour avoir ce genre de débat. Voilà, on ne parle pas de sujets aussi importants dans une émission avec un
hétérophile
transformiste et un cracheur de feu bègue. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas possible, on ne peut pas avoir...
Il y a quand même Natacha Polony, François-Olivier Gisbert...
Mais après, vous savez très bien que cette émission, les Terriens, c'est de l'infotainment. Si on vient parler de quelque chose comme ça, on évite d'aller dans des émissions où ça va finir en autre boudin. Et voilà.
Samuel Prouveau.
Parce qu'au-delà en fait d'Éric Zemmour, la question n'est pas du tout de reparler de lui et d'être pour ou contre.
Oui, c'est
ce que l'auditeur disait.
Ouais.
Exactement, c'est sur la liberté d'expression. Et Fatima n'a pas employé le mot, mais je pense qu'elle l'avait peut-être au bout des lèvres. En fait, la question, c'est la censure. Il y a des époques où en France, il y avait une censure. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que certains relais médiatiques, au nom d'un progressisme éclairé, prennent les armes les plus réactionnaires. Je suis en train de terminer un roman historique génial sur la révolution de 1830. Et on parle de quoi? Qu'est-ce qui a déclenché ça? c'est les ordonnances de Charles X qui exactement. Dit bon, la presse libérale, on en a ras-le-bol, donc en fait, ce qu'on va faire, on va censurer. Donc en fait, c'est exactement la même chose, sauf que c'est pas Charles X, j'ai rien à titre personnel contre Audrey Pulvar, mais sincèrement, c'est du Charles X à l'état de pur parfum, c'est de l'essentiel de parfum de Charles X.
Oui, alors, Eduardo.
Premier point, je ne suis pas pour l'interdiction et la censure, je suis pour l'expression, la liberté d'expression. Et je crois que j'étais à la fois en désaccord avec l'auditeur tout à l'heure sur l'affaire Dieudonné, parce que la justice avait tranché. On n'était pas dans l'ordre de la liberté d'expression, mais de la diffamation, donc passible du droit français pour l'incitation à la haine raciale. Donc, moi, je ne suis pas pour interdire Zemmour. Je suis pour qu'on le poursuive si jamais il dépasse les limites du droit français, notamment avec l'incitation à la haine raciale. Ensuite, je suis pour qu'il y ait plus de gens face à Zemmour et face à d'autres paroles comme celle-là, qui sont capables de décrypter, de déconstruire et de critiquer son discours. Mmh. C'est ça dont on a besoin. Moi, je suis philosophe de formation, je veux qu'on puisse avoir les idées claires et distinctes, comme on dit avec Descartes, comme disait Descartes. Donc, j'ai pas peur de Zemmour. Hein. Moi, j'ai déjà débattu avec lui. Ouais. Moi, il me démonte pas. Hein. Mmh. Parce que précisément, il y a du répondant en face. Donc le problème, c'est que.
Mais elle lui a répondu à Zemmour, ça aussi, ce qui est tout à fait juste quand elle lui a répondu.
Évidemment, souvent, face à Zemmour, il y a des gens qui ne sont pas suffisamment calibrés pour lui répondre et démonter justement ces propos qui relèvent pour moi aujourd'hui de la névrose obsessionnelle. C'est de la névrose obsessionnelle chez Éric Zemmour, soyons clairs. Il crée des provocations qui répondent à ses fantasmes.
Comme disait Samuel Prouvot, ne parlons pas d'Éric Zemmour.
Bon, c'est quand même grave.
C'est sur le fait de dire, je vois sur Twitter par exemple, Marika qui travaille à Charlie Hebdo, qui était l'ancienne compagne de Charb, qui a publié un dessin de Charb montrant un rabbin et un imam se touchant le sexe et disant les extrêmes se touchent les bouts.
Et donc, c'est un prêtre.
Et ce dessin a été interdit par Twitter. Son compte a été fermé.
Twitter est dans une folie de ce côté-là, comme Facebook, à interdire des tableaux, des œuvres d'art, parce que l'odalisque dingue ne peut pas passer sur Facebook.
L'origine du monde, etc.
Donc, ce que je crois aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on arrive à retrouver. Écoutez, les médias, que ce soit la radio ou la télévision.
Un rabbin, effectivement, qui se touchait, c'était les extrêmes se touchent.
Voilà. Donc, les médias, Valérie Expert, radio, télévision, réseaux sociaux, etc., Internet, aujourd'hui, c'est l'agora publique. C'est l'agora tout court, c'est le forum, c'est le lieu du débat public, c'est l'espace public, et ça doit être régulé comme tel. Je voudrais qu'on revienne à de nouvelles lumières, à une époque où on peut avoir des débats rationnels, où on s'affronte sur la base de rationalité et non pas à partir de faux semblants.
Est-ce qu'on peut débattre avec Éric Zemmour ?
Mais moi, j'ai déjà débattu avec Éric Zemmour.
Je vous pose la question.
Je l'ai fait moi, d'autres l'ont fait. Pourquoi pas ? La question, c'est de pouvoir être capable de démonter sa fausse vision de la France.
J'ai pas osé le dire, Eduardo, mais cette semaine, dans Famille Chrétienne, on publie 4 pages d'interview avec Zemmour. Et justement, il y a eu un débat dans la rédaction. Et du coup, ce qui me semble tout à fait naturel du point de vue journalistique, on a en fait un papier qui explique que c'est pas un personnage comme les autres et que forcément, il y a des opinions qui, pour nous catholiques, sont difficilement comestibles. Et pour autant, on le publie et on ne le censure pas.
Bravo.
Prendre la décision de ne pas lui donner la parole, c'est un débat de rédaction.
C'est de donner la parole.
Et nous, dans la correcte,
on n'est pas un intellectuel, c'est un polémiste provocateur.
C'est un intellectuel.
Et aujourd'hui, ses propos,
il
a des références intellectuelles, mais il ne fonctionne pas selon le monde intellectuel. Il fonctionne à travers des préjugés. C'est un sophiste, Valérie Expert, d'après moi.
Il a le droit d'avoir son opinion.
Dans le monde de Platon, ce serait un sophiste. C'est-à-dire qu'il fonctionne à partir de préjugés, pas à partir d'idées claires. Il n'a pas la méthode de la communauté intellectuelle et scientifique. Et vous lisez ses livres, et c'est un ramassis d'amalgames de fausseté critiquables facilement.
Ça, c'est le débat,
il faut pouvoir le démonter dans l'espace public.
Je vous rappelle qu'il est en tête des ventes des livres, a priori.
Mais il n'a pas besoin d'être sur les plateaux, il avait été très bien vendu,
c'est pas un problème.
Non, vous ne pouvez pas faire cette comparaison.
Je pense qu'il y a des livres très graves qui ont fait de très grosses ventes. Le succès commercial n'est pas une garantie de niveau, de qualité, de recherche et d'intellect.
Ça prouve que ce qu'il dit, en tout cas, interpelle, intéresse.
Écoutez, le Front National fait combien en France, Valérie Expert ? Le populisme, il est où aujourd'hui en Europe ? Moi, je m'interroge. Je suis très inquiet. Je suis très inquiet aujourd'hui. Les forces de progrès sont incapables de s'organiser. Vous avez le populisme en Italie, vous l'avez en France, vous l'avez partout.
Audrey Pulvar dans les grands genres forces de progrès.
Il correspond à l'époque, je suis d'accord.
Revenons, de quoi parle-t-on, comme disait Clémenceau, à chaque fois quand il y avait une vraie question politique. On revient à la question qui était, Audrey Pulvar, qu'est-ce que vous en pensez ? Mais d'où parles-tu, camarade, quoi, Audrey Pulvar, quoi. C'est l'enfant gâté des médias. On sait très bien qu'elle a eu une carrière en dents de scie parce qu'elle a peut-être des petits problèmes de caractère et peut-être des petits problèmes de méthode de travail. Et finalement, elle se retrouve à la tête d'une fondation. Elle s'était, on l'avait embauchée ici et ici. On sait très bien... faut arrêter, quoi. Si vraiment il y a quelqu'un qui a vraiment bénéficié du système et qui est complètement dans cette endogamie où à la fois on mélange le politique, la presse,
alors, je sais pas pourquoi
les fondations,
procès
personnel, etc. Faut arrêter.
C'est pas personnel, ouais. Mais Audrey Pulvar, c'est une citoyenne, elle a le droit d'avoir des opinions.
Non, oui, mais une opinion, mais de partir de là et de donner des leçons en expliquant qu'il ne faut pas que Éric Zemmour passe sur les médias. Je trouve que la barre d'Audrey Pulvar, c'est un petit peu gonflé, quoi. Parce qu'on ne se pose pas en espèce de justicier quand on est quelqu'un qui a bénéficié toute sa carrière de la courte échelle. Je trouve
ça un petit peu. Je vais pas dire ça non plus. C'est un résumé. Non,
mais elle a. Si je le dis, c'est mon opinion.
Oui, c'est votre opinion.
J'espère que ce n'est pas condamnable en justice.
Elle jugera. Elle peut vous accuser de je ne sais pas quoi, mais.
J'aurais préféré entendre Audrey Pulvar.
Non, mais courte échelle. Ça veut dire qu'elle n'était pas compétente et qu'elle a bénéficié de passe-droit.
Je connais du monde dans la presse et bon, bref.
Pas bref. Non, franchement, c'est pas bien de porter des mots de couloir, etc.
On a deux auditeurs. On a Didier en ligne avec nous. Didier, bonjour. Jean-Noël est en ligne, pardon. Jean-Noël.
Oui, bonjour à toute l'équipe.
Bonjour à vos
intervenants. J'ai pas tout entendu, mais le peu que j'ai entendu, je vais répondre 30 secondes sur Monsieur Zemmour, qui est un monsieur qui dit beaucoup de vérité, quoi qu'on en dise, parce qu'il met le doigt sur des faits qui sont avérés réels. Quand on dit qu'il dit que des bêtises, il faudrait penser à voir ce qui s'est passé par rapport aux attentats et comment ça s'est passé et comment peut-être certains futurs attentats malheureusement auront lieu en France et en Europe dû à un certain laxisme en laissant rentrer par exemple des clandestins, des migrants en France, ce sont des agents dormants, pour faire des attentats dans quelques temps. Ceci dit, M. Zemmour a tout à fait le droit de parler normalement, parce que quand on n'est pas dans la bien-pensance, la parole bien-pensante, on n'a pas le droit de parler. On est traité ou de populiste ou
de populiste. Zemmour est partout à la télé. Hein.
Oui, il est partout
c'est
à
pour
la
ça,
télé.
Mais c'est pour ça, il ne faut pas, surtout pas l'interdire, Mme Pulvar, si elle dit ça, je n'ai pas entendu, mais si elle dit ça, il faut le laisser parler. Et accessoirement, si on l'interdit de parler à la télévision, il faut créer une télé virtuelle sur le net et l'aider afin de pouvoir s'exprimer et dire un petit ce qui se passe réellement en France, parce qu'il se passe des choses en France. Vous avez un intervenant qui a parlé, moi je l'invite et je viens le chercher à Paris quand je monte à Paris, et on va dans certains quartiers à Paris, on va aller en Seine-Saint-Denis, je vais lui montrer ce que c'est la France d'aujourd'hui ou autre part. Et là, quand il va ressortir, vous allez voir un petit peu la différence qu'il y aura dans ses propos. Il se passe des choses inadmissibles, il faut arrêter, je pense que c'est ça. Et M. Zemmour, c'est un grand monsieur, je pense que c'est un intellectuel aussi, il a beaucoup de références aussi, ni plus ni moins, mais il est pas mal, et dans son sens, il faut laisser s'exprimer. Et c'est tout à fait normal de dire une autre vérité, peut-être la vérité qu'on n'aime pas entendre.
On a dit, merci Jean-Noël. On a Didier également qui souhaitait réagir. Bonjour Didier.
Bonjour Valérie, bonjour à tous. Bonjour. Moi j'habite Romainville, en plus en Seine-Saint-Denis, et je connais un petit peu Zemmour puisque je vais au Figaro tous les jours quasiment. Donc, et je suis tout à fait d'accord avec l'auditeur
précédent.
Ouais. Franchement, les médias sont tenus par des bobos gauchistes, et puis il faut laisser les gens s'exprimer. Voilà, il a parfaitement le droit. Moi, franchement, voilà. Donc
vous dites qu'il faut le laisser aller sur les plateaux.
Après, si selon la loi c'est condamnable, il est grand, il a des avocats, il a tout ce qu'il faut, donc voilà. Mais faut laisser t'exprimer, sinon c'est devenu une dictature. Voilà.
Merci beaucoup Didier d'être intervenu. Allez, on se retrouve dans un instant, on va changer de sujet, on va parler de la PMA, tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Retour avec vous sur le plateau de Sud Radio. On est ensemble jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Berkoff. Petite information, la chaîne d'info, hier, les chaînes d'info ont explosé leurs audiences avec l'audition de Benalla. Donc quand j'entends certains dire que ça n'intéresse pas les Français, en tout cas, cette audition a été extrêmement suivie sur toutes les chaînes d'information. 700 000 téléspectateurs en moyenne ont suivi cette audition. Donc le matin.
C'est prévisible, hein.
Oui et non, parce qu'on nous dit que ça intéresse personne. Que
c'est... franchement, les importants.
Je sais pas.
Voilà. Ils ont tort.
Les politiques de ci, de là nous disent que ça n'intéresse pas les gens. Allez, on va parler de la PMA. Est-ce qu'elle doit être élargie aux femmes seules et aux couples de femmes? C'est un responsable du Conseil national de l'Ordre des médecins interrogé mercredi matin dans La Croix qui estime qu'il faudrait étendre la procréation médicalement assistée aux couples et aux couples de femmes seules. Le couple, donc le Conseil de l'Ordre des médecins, pardon, je me suis mal exprimé, oui. Des couples de femmes et aux femmes seules. Et le Conseil de l'Ordre n'est pas opposé à cette extension de la PMA. Fatima, alors vous avez dit que vous aviez une position très, très tranchée.
Je pense qu'on va avoir une position différente avec peut-être Samuel, je pense, sur la question. Donc la PMA pour toutes les femmes, c'est une promesse de campagne du président Emmanuel Macron. Ça doit être fait d'ici la fin du quinquennat, j'ose espérer. C'est une mesure juste de bon sens, dans le sens où c'est juste des femmes qui disposent de leur corps et qui veulent avoir un enfant. Une femme seule ou un couple de femmes ensemble, pourquoi juste un couple hétéro elle doit avoir accès à la FIV? C'est juste la question qui se pose. Oui. Donc à partir de ce moment-là, on ne peut pas dire qu'une femme seule, elle ne peut pas élever un enfant, c'est pas vrai. Inversement, un couple de femmes, on ne peut pas leur dire « Non, mais vous ne pouvez pas élever un enfant ensemble. » Donc, c'est juste la juste continuité en réalité.
Ce qu'ils disent aussi, c'est qu'il y a une hypocrisie. C'est-à-dire que ceux qui ont les moyens vont à l'étranger.
Évidemment, il y a surtout une mesure d'égalité sociale. Parce que même la question aussi derrière la PMA pour toutes, c'est la question du remboursement aussi de la PMA par la Sécurité sociale. Est-ce qu'on va la faire payer aux gens? Si on la fait payer aux femmes, pardon, le risque, c'est que les femmes qui n'ont pas les moyens ne peuvent pas avoir accès à cela. Et donc, on restera aussi dans une inégalité sociale. C'est tout ce débat qui doit être posé dans le cadre du CCNE, donc du Conseil national d'éthique, et dans le débat de la bioéthique qui va avoir lieu. Et normalement, c'est une promesse du président de la République. Je crois que c'était aussi une promesse de François Hollande. Je ne me souviens plus si c'était le cas.
Ça avait été dit pendant la campagne, mais nous ne l'avons malheureusement pas fait.
Ça n'a pas été fait. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais je dis que ça a été peut-être compliqué après avec le mariage pour tous, évidemment. À voir d'ici la fin de ce quinquennat, est-ce que ce sera fait? Je l'espère.
Est-ce que ça doit figurer dans la prochaine révision de la loi bioéthique? Mais vous parlez d'inégalité, quid des hommes?
Alors, c'est toujours l'argument qu'on nous met à la figure. Est-ce que mettre la PMA,
la GPA,
ça sera généralisé la GPA? La GPA, c'est pas du tout la même chose, encore
non,
une fois.
C'est la gestation pour autrui,
ça veut dire qu'on
est dans la marchandisation des corps.
C'est la marchandisation des femmes et la création de ce qu'on appelle des cliniques, parce que je sais pas si vous regardez souvent des reportages, mais moi j'en ai vu, en fait, des espèces d'hôtels où il y a des femmes en fait, qui s'accoulent à la piscine et qui sont enceintes pour autrui. C'est juste la marchandisation du corps. En plus, il y a des questions légales qui sont très bien expliquées. D'ailleurs, il y a un livre qui va sortir, celui de Marianne Frison-Roche, donc une docteure en droit, une professeure de droit à Sciences Po, qui justement dénonce l'hypocrisie de la GPA, dans le sens où c'est un droit à l'enfance. C'est en fait, l'enfant est devenu un objet. Et une histoire très importante, qui est très intéressante, qui est arrivée, en Angleterre, il y a quelques semaines, où une femme est tombée enceinte de son propre enfant et aussi tombée enceinte. Ça est très rare comme
acte. Et elle a eu un embryon implanté.
Elle est enceinte de deux enfants. Elle a accouché des deux enfants. On les lui a retirés à la naissance. Elle n'a pas vu son enfant biologique. Ensuite, le couple qui a récupéré deux enfants, finalement, ne voulait pas du deuxième enfant qui n'était pas le leur, en fait. Et ils s'en sont un peu débarrassés.
Ça va poser des questions.
Et donc, ça pose des questions éthiques absolument fondamentale. Et
ça, c'est sur la GPA, c'est pas la même
chose.
C'est sur la GPA. La PMA, oui, mais qui est forcément, qui fait partie, je pense, du débat de la PMA.
Après, moi, j'en ai parlé avec.
Il y aura un autre livre à paraître aussi, celui de Marc-Olivier Fogiel, qui raconte comment lui a eu recours à la GPA pour ses deux petites filles. Alors, Samuel,
en tout cas, voilà, sur la GPA, avec Fatima, nous sommes tout à fait sur la même longueur d'onde. Là où nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde, alors, c'est un débat compliqué parce qu'il est technique et juridique. Moi, j'estime qu'entre l'autorisation, si elle est donnée, la libéralisation de la PMA pour un des couples de femmes, et la future GPA, il y a une voie qui est droite. Parce qu'au nom du principe d'égalité, et ça, je suis sûr, Fatima, qu'il vous est cher, c'est très difficile de permettre à un couple de femmes de bénéficier de la PMA. Mais que dire à un couple d'hommes qui, lui aussi, pourra manifester un désir d'enfant? Mais je voulais revenir à la question radicale. Ouais. C'est, est-ce que c'est opportun ou pas d'ouvrir la PMA pour des couples de femmes? Moi, je prendrais le risque de dire que, justement, il y a un très gros risque et le bon sens dont tu parlais, Fatima, je pense qu'on peut l'invoquer aussi dans l'autre sens. Ce qui, moi, me dérange le plus profondément, c'est le fait de volontairement prendre le risque d'effacer l'origine, d'effacer celui qui est le père, puisque concrètement, si la PMA est effectuée, le père devient un géniteur et dans l'ordre de la loi telle qu'elle est prévue à l'heure actuelle, ça peut changer, hein, ce géniteur, on n'a pas accès à ce géniteur. Je voulais juste te dire que connaître son père, c'est pas juste une histoire de la guerre des étoiles et de Dark Vador. Nous, on prépare un énorme dossier sur la généalogie. C'est un traumatisme extrêmement profond que de ne pas avoir accès à l'origine de son père. Je ne dis pas...
Mais quid des enfants adoptés, les enfants adoptés,
oui,
c'est
mais
la
alors,
même chose.
Valérie, dans le cas, bien sûr, mais dans le cas des enfants adoptés, il y a justement une adoption et quelqu'un qui tient le rôle de père. Et donc là, je pense qu'il y a quelque chose de très grave, c'est volontairement prendre le risque
alors,
d'effacer le
père. Il nous
reste
très peu de temps, je voudrais que chacun puisse s'exprimer. Eduardo, Rian Cipel.
Je suis favorable à la PMA pour les couples de femmes. Je suis totalement défavorable à la GPA parce qu'il s'agit de marchandisation du corps et là, on va vers des problèmes éthiques majeurs. Pour les couples d'hommes, je crois qu'il faut réfléchir aux questions d'adoption et accepter un certain nombre d'inégalités aussi qui sont liées à la réalité humaine. S'agissant du rôle du père qui est effacé, je crois que le plus douloureux, c'est de ne pas connaître son histoire et non pas nécessairement l'origine.
Arnaud,
et c'est cela qui est expliqué. Et je rappelle que d'un point de vue psychanalytique, le rôle du père peut être aussi quelque chose qui est de l'ordre du symbolique et pas simplement du biologique. Et donc, ça peut être totalement remplacé par... Dans le
Arnaud,
couple,
rapidement, demain. Arnaud Stéphane, vous
peut,
êtes...
On peut tout remplacer. Ouais. Non, moi, je pense que...
Je pas
pense
tout
que,
remplacer, mais certaines choses peuvent être...
Encore une fois, le relativisme. Oui,
donc,
ça peut être bien vécu ou pas.
Vous vous êtes opposé
à
la bien
sûr.
PMA
mais parce qu'il y a un problème anthropologique, tout simplement. Je veux dire, vous pouvez autoriser ce que vous voulez. Il reste des réalités biologiques, il reste des qui sont liées même à comment se constitue une famille.
Mais aujourd'hui, on ne fait pas... Problème anthropologique de ne pas pouvoir procréer pour certains couples stériles.
Y a pas d'enfant,
la PMA, elle existe pour les couples
hétérosexuels. Il n'y a pas d'enfant sans père. Pour l'instant, on n'a pas réussi. Hein.
Je vous invite à lire la psychanalyse et voir que le rôle du père est un rôle symbolique.
Il y a bien le situation agreement. Il y a le petit plus qui permet de faire des enfants. Et bien, ça veut dire un père.
Je ne suis pas radical sur ces questions.
Et ça veut dire créer aussi des générations de gens qui vont se retrouver orphelins a priori. Et moi, ça me pose un problème.
Allez, on aura l'occasion d'en débattre. Je pense que le sujet ne fait que commencer.
Vous savez comment on appelle un père écolo?
Non.
Un pervers.
Ça, c'était non, André Berkoff. Alors André,
ça, c'était le jeu de mots de Lacan aussi, hein, entre père, version, père.
Et le père sévère.
Version du père.
André, de quoi allez-vous parler?
Évidemment, d'Alexandre Benalla, que je viens d'avoir au téléphone, qui est chômeur, comme vous savez, il a dit à la commission d'enquête. Il serait ravi de venir participer au débat de Valérie
Expert.
C'est
vrai,
écoutez,
avec plaisir.
Si Valérie, il serait ravi,
il a
même des choses à
vous dire. Je précise.
Ah bon, alors là, je ne sais pas s'il sera d'accord. Là, je crois qu'il y aura...
Vous avez vu les audiences qui ont cartonné hier sur les chaînes d'info, donc ça intéresse un petit peu les Français.
Et c'est formidable,
ça. Allez, merci à tous les quatre, à suivre André Berkoff, et nous, on se retrouve demain à 10h.